retrouve un certain type de fonctionnement de la subjectivité archaïque japonaise, qui sont les mêmes instruments qui servent à fabriquer la subjectivité la plus, disons, moderniste ou postmoderniste, si vous voulez, c'est pareil en l'occurrence. C'est donc cette formule d'intégration qui est la plus efficace et en un sens la plus dangereuse, parce qu'elle est aussi la plus désingularisante. Elle sert à singulariser des processus dans l'ordre économique, dans l'ordre technologique, mais elle sert aussi à faire une sérialité générale de la subjectivité japonaise. Je prends cet exemple-là comme un des pôles, aujourd'hui, et un des mythes aussi, des nouvelles formes de subjectivation. Un autre pôle que je voudrais mettre en contrepartie, ça serait le Brésil. Car là, au contraire, il semble s'y développer sous une forme qui n'est plus celle, disons, populiste, celle du Front populaire, c'est-à-dire de prestations relativement complémentaires les unes par rapport aux autres entre des pôles de subjectivation, mais une forme de segmentarité qui pour moi m'apparaît très mystérieuse, à savoir que le Brésil est à la fois, je crois, la 6e ou 7e puissance industrielle aujourd'hui, et qui est une puissance montante qui va certainement s'affirmer dans les années à venir, mais en même temps, c'est un pays de 120 millions d'habitants, au sein duquel peut-être entre 80 millions et 100 millions d'habitants ne participent pas à l'économie monétaire, parce qu'ils sont dans un degré de pauvreté absolu. Alors là, on voit qu'on n'est plus dans l'économie, front populaire, une économie de prestations réciproques. C'est comme s'il y avait développement inégal, hétérogène, d'une subjectivité hyper capitalistique qui coexiste avec une subjectivité de la misère qui est extrêmement forte. On trouve aussi un phénomène un peu similaire aux États-Unis avec les ghettos, etc. Mais là,
mais qui sont eux-mêmes, comme vous dites, qui sont eux-mêmes des phénomènes d'une toute autre subjectivation, où il y a une subjectivation de tout ce peuple hors marché,
qui ne participe pas au marché. Alors, je voudrais faire juste deux remarques sur le Brésil qui me paraissent tout à fait méritées qu'on y réfléchisse. Deux points. C'est que cette hétérogénéité des pôles subjectifs ne s'accompagne pas moins d'un autre type de prestation générale, qui est celle des médias. Car l'ensemble des acteurs, y compris les plus pauvres, ceux qui crèvent dans les favelas, ont la télévision. Les systèmes de télévision, les systèmes de subjectivation par la télévision, gagnent l'ensemble des participants. C'est donc pas comme s'il y avait une réserve, comme une réserve d'aborigènes ou de gens complètement paumés dans un coin pendant qu'on crée un bastion industriel. Non, c'est qu'il y a prétention à créer un grand Brésil, un grand marché subjectif. Et ça, c'est par l'intermédiaire de cet instrument qui n'est pas un instrument d'échange monétaire, qui n'est pas, qui passe pas par des signes monétaires, puisqu'encore une fois, plus de la moitié des Brésiliens ne participent pratiquement pas à l'économie monétaire, d'où des taux d'inflation délirants qu'on a connus, et la double système de double monnaie, mais ça passe par les sémiotiques mass-médiatiques. Première remarque. Deuxième remarque. Les archaïsmes, évidemment, les processus de territorialisation subjective, évidemment, existent parmi les Noirs, existent dans le nord du Brésil, à Bahia, etc., existent tout le monde maintenant parmi les Indiens, ce qui est tout naturel, puisque on peut comprendre que ces groupes se raccrochent, se reconstituent une subjectivité avec les moyens du bord, avec ce qu'ils ont pu ramener des anciens cultes africains, des choses de cette nature. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ce sont ces mêmes archaïsmes qui travaillent l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a un double mouvement de subjectivation. D'une part, les médias capitalistiques gagnent l'ensemble des 120 millions de Brésiliens, mais aussi tendanciellement, les cultes, comme les cultes du candomblé, comme les cultes etc., ça qui va peut-être vous en parler, gagnent aussi l'ensemble de la subjectivation dominante. Là, il y a une production de subjectivité qui me paraît complètement de nature différente à celle qui était le fait que la subjectivité dans les autres cas de figure se développait dans des entités qu'on pouvait à peu près circonscrire. Une classe sociale, ou un groupe, ou par exemple la subjectivité des Bretons, des Corses, etc. Là, c'est quelque chose qui entretient des rapports transversaux. Je ne porte pas de jugement de valeur, j'en porte un quand même sur le Japon, parce qu'on peut se demander jusqu'à quel point ce processus d'intégration ne va pas finir à faire une explosion, une explosion nucléaire. On ne voit pas comment est-ce que ça va pouvoir se développer à l'infini, encore qu'il y a aussi quelques zones de marginalité absolue, comme à Saldia ou à la mine. Mais enfin, c'est vraiment très marginal, là. Tandis qu'au Brésil, il y a un autre mode de développement qui, à mon avis, à terme, va remettre en question aussi profondément les modes de subjectivation sur la planète aujourd'hui, va finir par les remettre en question de façon aussi intense que le modèle japonais. Je crois qu'il faut réfléchir sur ces deux types de production de subjectivité qui sont en train de se développer sous nos yeux.
Oui, ça donnerait l'idée que non seulement, en effet, il y a variation historique, il y a variation géographique des modes de subjectivation constante. Ah, c'est bien parce que vous en avez analysé rapidement plus de deux. Il y avait en premier, je ne sais plus laquelle il y avait.
L'Italie.
L'Italie, vous avez parlé de l'Italie.
L'Espagne.
Ah, l'Espagne, oui. L'Espagne. Le Japon, le Brésil, alors bah, t'es d'accord, il dit que c'est même pour ça qu'il est parti. Bon, et bien, c'est bien, moi ce que j'en retiens, et si vous le voulez bien, c'était le but de cette séance, c'était prendre conscience de la manière dont se pose dans chaque cas, dans les manières, vraiment c'est des problèmes compliqués, le problème de la subjectivation, y compris et surtout collective, dans la mesure où elle est, où elle diffère en nature, où elle se distingue en nature, et des rapports de pouvoir et des formes de savoir. Et deuxièmement, en second point, comment évidemment il y a réaction constante des modes de subjectivation avec les formes de savoir et les rapports de pouvoir. Or, je crois réellement que à l'issue des trois derniers livres, en comptant les aveux de la chair, à l'issue de ces trois derniers livres, Foucault vivait et a vécu ce problème comme étant le problème qui lui devenait fondamental, une fois dit qu'en effet, conformément à ce qu'il souhaitait, il avait su franchir la ligne constituée par le pouvoir, il avait su comment faire, comment mettre en question les rapports de pouvoir sans rester toujours du côté de ces rapports de pouvoir. Comment donc il avait découvert ce troisième axe et son problème devenait évidemment comment tout réorganiser des deux axes précédents, savoir et pouvoir, en fonction de l'acte de subjectivation et inversement. Et que, si l'on peut se permettre de préjuger de ce qu'il aurait, de la manière dont il aurait poursuivi son œuvre, je pense que cet aspect aurait pris une importance de plus en plus grande chez lui. Y compris, alors, toute sa réflexion sur l'art et sur la littérature reprenait un nouveau sens, acquérait un nouveau sens à travers cela, puisqu'on a constamment rencontré le problème des nouvelles perceptions, des nouvelles affectivités, et le problème de l'art à cet égard, ou de la création des potentialités. Mais si vous voulez, ce qui vraiment avait fait l'impasse de la volonté de savoir, c'était comme si Foucault s'était dit, mais dans mon système, dans ma pensée, il n'y a finalement aucune place pour la création de nouveau, sauf sous forme de mutation dont on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est quand il se sent pris dans cette impasse qu'il a fait craquer, précisément comme en repartant à zéro avec sa série de trois livres-là, commencé par l'usage des plaisirs. En découvrant la subjectivation, il va découvrir comme une source des points de résistance, comme une source pour une ouverture des potentialités dans un champ social, quitte à ce qu'à cela se déroule une bataille entre les trois axes. Donc la prochaine fois, si vous le voulez bien, moi je demanderai à quelqu'un d'autre, je demanderai à Eric de parler un peu de l'Italie et des Italiens auxquels on a beaucoup fait référence, toi. Et puis on avancera vers alors une considération plus générale et plus abstraite des trois axes. Mais aujourd'hui, je suis bien content qu'on l'ait vu de manière concrète. Voilà.